à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Gemozo pour la mission La Parole est à vous, consacré comme de tradition, donc on est troisième semaine du mois. C'est un magazine santé avec le compte de Jean.
De Jean, oui.
Du docteur Jean Giticran. Le magazine santé, et puis aussi d'Ademat, bien sûr.
Oui. Bonsoir Michel, bonsoir à tous, et merci pour votre fidélité, oui, effectivement. Nous parlerons aujourd'hui du concept d'une seule santé, le concept One Health, hein, qui parle de la santé des humains, de la santé des animaux et de la santé environnementale. Ces trois santés-là sont indissociables. Et on est beaucoup plus efficace en matière de santé humaine si on prend en compte la santé des animaux et la santé de l'environnement. Puisque 75% des maladies infectieuses qui touchent l'humain sont d'origine animale et sont liées à des bouleversements environnementaux, tout simplement.
Et ça depuis la plus haute antiquité.
Depuis la plus haute antiquité.
On évoquait les rats, les...
Alors historiquement... C'est surtout survenu à partir du néolithique, moins 10 000 ans avant Jésus-Christ, où il y a une sédentarisation des populations humaines autour de pâturages pour l'agriculture, autour de champs, avec construction de villages pour faire des greniers et pour être sur place pour traiter les...
Promiscuité.
Voilà. L'homme n'est plus un chasseur-cueilleur, il devient un agriculteur sédentaire. Et étant sédentaire, il fixe des espèces végétales qu'il va cultiver, le blé, etc. Mais surtout, il domestique la chèvre, le mouton et les bovins.
On est à peu près à l'âge de pierre ou avant ?
On est 10 000 ans avant Jésus-Christ, le néolithique, du néolithique. Entre 5 et 10 000 ans.
Bien avant l'âge de pierre. Non, l'âge du fer, pardon.
Oui, hein. Oui, l'âge du fer, c'est à partir de 4 000, 5 000 ans avant Jésus-Christ. Hein, c'est...
Là, on est vraiment au néolithique.
Oui, au néolithique.
C'était la période où les monies étaient élevées un peu partout.
Oui, oui. Alors,
exemple Bretagne, quoi.
Un rapprochement sous le même toit, parce que d'animaux, hein, donc les moutons, chèvres, bovins, pour les protéger des prédateurs. Hein, le loup, les ours, etc. Hein, donc, ces animaux apportaient une certaine chaleur humaine, mais une certaine proximité. Dans l'habitation, on rangeait aussi les réserves annuelles de céréales, d'où l'apparition de rats, de souris, de rats, qui pouvaient transmettre des maladies. En particulier des poux, des puces, qui transmettaient des maladies, ce qu'on appelle vectorielles, transmises par un insecte, quoi. Hein. Et puis, il avait une certaine promiscuité, parce que autant les chasseurs-cueilleurs étaient des gens qui bougeaient beaucoup, qui changeaient d'endroit, là, la sédentarité fait que les matières fécales pouvaient contaminer les eaux, contaminer les animaux, et inversement. Hein. Donc, il y a des risques infectieux importants. L'assujettissement des végétaux et des animaux n'a pas été sans coût pour l'espèce humaine en matière de santé. C'est un petit peu ce bouleversement. Parce qu'effectivement, la santé des humains, des animaux et de l'environnement, il faut agir pour dépister ces maladies animales actuellement, pour pouvoir les prévenir et mieux lutter contre, pour éviter les grandes pandémies. Parce qu'il y a 3 à 5 nouvelles maladies par an qui sont liés à de nouvelles bactéries ou des bactéries mutantes.
Oui, parasitoses, comme la maladie de Lyme, par exemple.
Oui, il y a des maladies bactériennes, des maladies parasitaires et des maladies fongiques. On trouve de ces maladies. 75% des nouvelles maladies infectieuses sont d'origine animale. Actuellement, l'OMS, la Food and Agriculture Organization, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, l'Organisation Mondiale de la Santé Animale, joue de concert pour dépister ces maladies, pour les prévenir, les trouver en amont de leur explosion, pour pouvoir lutter plus efficacement, faire des vaccins, prendre des mesures sanitaires pour éviter ces grandes épizooties ou ces panzooties quand elles touchent le monde entier, quoi. Alors c'est un concept qui n'est pas tout à fait nouveau, mais qui est très à la mode. Il était un petit peu inventé par Calvin Schwabe, qui a écrit un livre comme « Médecine vétérinaire et médecine humaine, et santé humaine » en 1984. Hein, donc c'est quand même pas récent, mais c'est aigu actuellement. Et l'investissement en argent dans ces programmes rapporte 10 fois plus que par la prévention, que le traitement a posteriori de ces maladies où on n'aurait rien fait. Voilà, c'est extrêmement efficace et c'est très important d'en tenir compte. Hein. Alors, ces nouvelles maladies sont favorisées par... Il y a beaucoup de facteurs qui favorisent ces nouvelles maladies. C'est le commerce des animaux, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est l'urbanisation humaine, c'est les industries extractives, c'est les changements climatiques, c'est la fragmentation des habitats animaux et la pénétration de l'homme dans les zones sauvages. On est quand même 8 milliards passés d'individus, d'hommes sur la Terre, et nous avons pénétré largement des zones qui ne nous étaient pas forcément réservées, qui étaient des zones totalement sauvages, et on est venu en contact avec des animaux présentant des fois des maladies ou même des fois porteurs sains de virus pour lesquels on n'était pas préparé ni habitué. Ebola, par exemple. C'est un virus qui touche certaines races de singes et la consommation de ces singes par les humains donne des redoutables épidémies. Quoi. Alors, pour que ces virus, ces bactéries, ces champignons touchent l'homme alors qu'ils ne le touchaient pas au départ, il y a souvent besoin qu'il y ait ce qu'on appelle un franchissement de la barrière d'espèce. C'est-à-dire que ces germes pathogènes doivent s'adapter à l'espèce humaine. Ils le font par des mutations, hein, par des changements de leur gène. Et ces mutations sont beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus très fréquentes chez les virus, par exemple, à ARN, comme le virus du Covid. Et donc,
le virus du Covid, avec un même narration de véhiculé par les chauves-souris,
le pangolin, voilà.
Est-ce que c'était vérifié, ça?
Les chauves-souris, c'est sûr. Le pangolin, c'est peut-être un intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme.
Oui, parce que les pangolins devaient boulotter des chauves-souris,
peut-être, c'est ça? Je ne sais pas du tout, mais peut-être qu'ils ont été en contact sur des marchés aux bestiaux, les uns avec les autres en Chine. Il semble que les chauves-souris soient porteuses de coronavirus. Donc c'est important d'avoir une approche intégrée et unificatrice de la santé entre la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes pour mieux surveiller ces facteurs infectieux émergents et pour lutter contre. Alors, exemple, la résistance aux antimicrobiens est un facteur aussi de propagation de ces maladies. On a trouvé par exemple aux Pays-Bas des infections par des champignons, infections nosocomiales hospitalières par des champignons résistants à tout. On ne savait pas d'où ça venait. Et en fait, on s'est aperçu que les bulbes des fleurs plantées dans les jardins de l'hôpital étaient traitées avec des antimycotiques contre les fusarioses, pour que les bulbes de tulipes n'aient pas d'infection. Vive, quoi, en fait. Mais ce faisant, on a sélectionné des champignons résistants absolument à tous les antimycotiques et qui ont touché l'espèce humaine, qui ont touché des malades dans ces hôpitaux hollandais, des Pays-Bas, avec des morts parce qu'il n'y avait rien pour les traiter. Donc on voit très bien le cheminement, environnemental des jardins hospitaliers avec atteinte des malades, quoi. Et ce sont des véritables enquêtes policières qui ont permis de découvrir ça.
Mais c'est pas le seul. Il y a beaucoup d'infections qui sont devenues résistantes aux antibiotiques.
Oui. C'est un problème très préoccupant. On a par exemple également aussi des infections, des fusarioses également, des mycoses, qui touchent les bananiers. Dans l'Amérique centrale, il n'y a plus qu'une seule espèce de banane, c'est la banane Cavendish, et elle est touchée par un champignon qui touche les rhizomes et qui fait pourrir les rhizomes. Et bon, comme ça n'a pas l'air important, mais il y a des pays comme l'Indonésie ou l'Amérique, l'Asie, le sud-est asiatique, qui se nourrissent pour un tiers de leur apport calorique par des bananes. Donc on va toucher, on va avoir des problèmes alimentaires.
De bananes, c'est-à-dire des bananes fruits et des bananes légumes.
Légumes, plantains.
Plantains.
Oui.
C'est les mêmes espèces qui sont touchées par...
Alors, c'est des espèces un petit peu variables. C'est des cultivars différents. Il y avait la banane Gros Georges, qui était la banane historique sucrée qu'on mangeait, et qui a totalement disparu. Elle était remplacée par la banane Cavendish, qui était en train de nouveau d'être malade. Et une des causes, c'est la monoculture. En Amérique centrale et Amérique du Sud, il y a des surfaces de culture de bananiers qui sont plus grandes que la totalité du Royaume-Uni. Donc c'est une monoculture qui favorise un petit peu aussi cette propagation de maladies fongiques.
Et tu fais la relation avec les bananes plantains, c'est-à-dire les bananes...
Les bananes plantains ne sont pas touchées pour l'instant.
Pas du tout ?
Pas touchées pour l'instant, non. Mais
oui, parce que c'est aussi une source d'alimentation très importante.
Très importante.
Et de revenus aussi pour les... Alors, pour l'Afrique centrale, par exemple.
Oui.
Mais pas seulement l'Afrique centrale, hein, toute l'Afrique pratiquement. Oui.
Entre dans ce cadre également les zoonoses. Alors j'ai parlé d'Ebola, de la grippe aviaire, de la rage. On va développer un petit peu ces maladies tout à l'heure. Et puis des maladies à transmission vectorielle, comme le virus du Nil occidental, la maladie de Lyme, le paludisme, la dengue, le chikungunya, le Zika, qui sont des maladies transmises par des arthropodes, c'est-à-dire des tiques, des moustiques, le fameux moustique tigre.
Est-ce qu'on est capable d'indiquer la maladie de Lyme, enfin la borréliose alors, aujourd'hui ou pas ?
La borréliose...
Est-ce qu'on obtient vraiment des succès par rapport à la maladie de Lyme ?
Il y a une tentative de vaccination, mais qui n'est pas efficace, qui échoue actuellement. Il y avait un candidat vaccin qui n'est pas satisfaisant. Voilà. Et donc, il faut traiter avec une antibiothérapie. Mais à la faveur du réchauffement climatique, on a là une montée, par exemple, des moustiques tigres qui ont quasiment envahi tout le pays, alors qu'ils n'étaient pas en France il y a 30 ans, hein, et qui sont arrivés par le sud. Et
il y a des... Mais il existait déjà des poux de bois, enfin, à cette époque-là.
Oui.
Hein, puisqu'on a des plaintes sur quand on allait par exemple dans les bois,
il y avait déjà des tiques avec
des
borrélioses avec
aujourd'hui c'est toujours d'actualité.
Oui, de plus en plus, surtout dans l'Est.
Est-ce qu'il y a de la prévention ? Qu'on peut s'en prémunir ?
On peut s'en prévenir en mettant des vêtements clairs, couvrants. C'est-à-dire que sur des vêtements clairs, on arrive à voir les tiques et on peut les enlever. Il faut mettre des répulsifs, des bottes ou des chaussures montantes avec des répulsifs sur les habits.
Mais malheureusement, c'est pas...
Et faire attention, y compris, parce que ça peut exister dans les arbres et les arbustes, y compris sur le cuir chevelu. Il peut y avoir des atteintes. Alors, très souvent, ces borrélioses sont transmises par le chevreuil dans nos pays. Le chevreuil est souvent couvert de tiques. Et c'est les jeunes tiques ne sont pas malades, mais c'est le chevreuil qui contamine les tiques.
Même les animaux domestiques. Hein.
Oui.
Les chats, les chiens ont la plupart du temps des tiques.
En ce qui concerne...
De même nature.
En ce qui concerne les forêts, les chemins, etc., c'est souvent des animaux sauvages et souvent le chevreuil.
Et qui transmettent aussi à des animaux domestiques aussi.
Oui, tout à fait.
Hein, parce que sous nos climats que... Les tiques, on en a sur les chiens, et puis sur les humains, bien sûr.
Ouais.
Hein, parce que j'en sais quelque chose.
Ouais.
Hein, j'ai eu une borréliose et j'en suis jamais débarrassé véritablement. Quoi. La maladie de Lyme, c'est une maladie quand même qui est...
Oui. Alors, il y a aussi des
effets... Qui a des effets à long terme.
Oui. Alors, il y a des choses qui sont insoupçonnées, comme la lèpre.
Ça existe encore ?
La lèpre existe toujours, même en Europe, aux États-Unis. Et la lèpre est transmise par deux animaux. L'écureuil roux est porteur de plusieurs bactéries de la lèpre. C'est des mycobactéries, il y en a deux types. Et l'écureuil est porteur de ces...
Les espèces, parce que les espèces d'écureuils...
Il y a le gris.
L'écureuil noir.
Oui, noir, et c'est le roux, c'est notre écureuil.
C'est lequel qui est encore aujourd'hui menacé d'extinction.
C'est justement le roux qui est menacé d'extinction par le...
C'est-à-dire celui qu'on peut encore en petit nombre dans nos forêts,
historiquement,
dans notre environnement à nous, c'est ça ?
Oui, historiquement, il y a eu beaucoup de lèpre au Moyen-Âge. Tu sais pourquoi ? Parce que c'était très à la mode de se faire des écharpes, des colliers en fourrure d'écureuil. Donc, il y avait ils attrapaient la lèpre.
On utilisait même les queues d'écureuil comme des poissons pour les chapeaux.
En Amérique centrale, le tatou, qui est un mammifère à carapace avec des écailles, qui ressemble un petit peu à un fourmilier ou à un pangolin d'ailleurs. C'est un peu voisin, c'est des animaux un peu voisins. Et porteur du germe de la lèpre aussi.
Encore aujourd'hui.
Oui, voilà.
Vous croyez que la lèpre était éradiquée partout, mais non, c'est pas le cas.
Pas du tout. Il y en a toujours. Mais ça se traite bien par des médicaments, comme les médicaments antituberculeux. Je rappelle encore ici le Covid, hein, avec la chauve-souris, la chauve-souris et le pangolin. Et puis, plus près de nous encore, les salmonelloses, qui sont des infections digestives, qui donne des typhoïdes, paratyphoïdes, transmis par les oiseaux. Mais on nous fait signe que je suis trop bavard et qu'il y a une pause musicale.
Une pause musicale.
Lou,
voilà.
Merci à Lou qui s'occupe de la technique.
On revient vers vous après une pause musicale. À tout à l'heure.
Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec par-ci par-là quelques gosses qui dansent. Voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle ai franchi des pays que je ne voyais pas, j'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Mais il y a tout au long des marchés de Provence tant de filles jolies, tant de filles jolies, qu'au milieu des fenouilles, melons et céleri, j'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle et croisé des regards que je ne voyais pas, j'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ces filles du soleil qui rient et qui m'appellent le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne la serre qui se promène et qui n'en finit pas. À la bella poutine, à la bella poutine, les belles, les villes, pay, 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 à la bella poutine, pay, pay, pay.
Oui, on continue, Michel. Je parlais des salmonelles, qui sont des germes qui peuvent être portés par les volailles. Les poules peuvent faire des œufs contaminés par des...
L'entrée dans le corps, c'est par le système digestif.
Par le système digestif, oui, oui. Donc, surtout par des œufs qui seraient mal cuits, qui seraient...
La viande aussi.
Oui, surtout, oui, la viande, mais surtout les œufs. Les campylobactères, des clostridium et des listeria donnent des infections digestives et peuvent être transmis par les animaux, quoi.
Ça peut être combattu par la médecine, par des antibiotiques.
Oui, des antibiotiques. Les salmonelloses donnent des typhoïdes.
Ah oui ?
Des fièvres paratyphoïdes et typhoïdes, qu'il faut traiter par des antibiotiques qui traitent le tube digestif et le foie. C'est important.
Et aujourd'hui, justement, la typhoïde et autres n'ont pas complètement disparu ?
Non, ça existe de temps en temps. Il y en a toujours quelques cas. D'où l'intérêt de dépister et d'éradiquer dans les élevages les volailles qui sont portes saines, qui ne sont pas malades, mais qui portent le salmonelle, qui l'intègrent dans ses œufs, avec des conséquences humaines très importantes. Le mode de transmission, ça peut être directement de l'animal à l'homme, ça peut être par l'environnement, par l'eau, bactéries, virus, entériques, ou par les sols, le tétanos, le charbon. On parlera du charbon aussi, qui est une maladie, l'anthrax, qui est une maladie redoutable.
Le charbon, c'est par les animaux domestiques, par les bovins surtout ?
Par les bovins, oui, tout à fait, dans les champs, etc. Consommation animale d'animaux contaminés, on a dit le salmonelle, des vers parasites, le ténia, l'ascaris, par les viandes de porc mal cuites, qui présentent des œufs ou des larves de ces vers. Contamination digestive par les mains sales, la toxoplasmose, qui est une maladie qui touche les chats. C'est totalement asymptomatique chez le chat.
Mais ça donne très dangereux pour les
femmes enceintes, qui donnent des malformations, des atteintes cérébrales fœtales, etc. Donc c'est très grave. On a parlé des arthropodes vecteurs, donc les moustiques, les tiques. La maladie la plus grave, la plus fréquente, c'est le paludisme encore. Par l'anophèle, qui est un moustique africain, quoi.
Dit moustique tigre,
voilà.
C'est ça ?
Non, c'est pas le même.
C'est pas le même.
L'anophèle, c'est un autre moustique qui transmet le parasite du paludisme en Afrique. Voilà. Et on commence à avoir des paludismes autochtones autour des aéroports en France. Donc le moustique est capable de prendre l'avion et il n'est pas exclu qu'avec le réchauffement climatique, on ait de nouveau des paludismes dans le sud de la France. C'est pas exclu. Mais actuellement, il y a des foyers de paludisme autour.
Alors, c'est pas le seul responsable, c'est pas uniquement le moustique tigre. Alors.
Non, c'est un autre moustique, c'est l'anophèle. Le moustique tigre transmet la dengue, le chikungunya, le zika. Voilà, c'est des virus qui ont. Le zika et le chikungunya sont des virus, des maladies qui sont graves pour les femmes enceintes, qui donnent des malformations et des cérébrales et autres chez les femmes enceintes. Et la dengue.
Des fièvres qui sont particulièrement.
La dengue aussi.
La dengue en particulier.
Des fièvres graves.
Il y a des compatriotes qui ont été dans les Caraïbes ou autres et qui sont revenus que la dengue.
Je connais.
Ou même l'île Maurice, l'île de la Réunion.
Oui. Je connais des gens en Mirmont qui ont ramené la dengue de voyage.
Alors,
la difficulté, c'est qu'on n'est pas habitué à diagnostiquer ces maladies dans nos pays.
Et puis des fièvres qui sont particulièrement pernicieuses,
parce que
ça peut porter à 41.
Avec des ictères, des atteintes hépatiques, des choses comme ça. Oui. L'interaction santé animale, santé humaine, donc on dit qu'il y a 3 à 5 nouvelles maladies par an. Il peut y avoir passage de l'animal à l'homme ou de l'homme à l'animal, inversement. Il n'y a pas toujours une maladie chez l'homme et chez l'animal. Il y a des maladies qui sont totalement asymptomatiques chez l'animal et qui deviennent graves chez l'homme, ou inversement. Nous transmettons des maladies graves à nos animaux aussi. Les volailles porteuses de salmonelle sont totalement asymptomatiques, ne sont pas malades, mais elles peuvent donner des typhoïdes. La chauve-souris porte des coronavirus, mais elle n'est pas malade. Et l'homme est extrêmement malade. La fièvre aphteuse, par exemple, qui touche les bovins, les ovins, les caprins et d'autres animaux, est totalement asymptomatique chez l'homme. Ça peut être transmis à l'homme, mais c'est asymptomatique. C'est une fièvre qui donne des avortements chez les brebis et les caprins.
Et le syndrome canalaire, alors, qui aujourd'hui provoque l'abattage de bovins, qu'en penses-tu ?
C'est aussi un virus transmis par un moucheron. Oui. Ça ne touche pas l'homme. Ça ne touche pas l'homme, mais ça entraîne des lésions cutanées graves, un dépérissement et des décès, du trouble de développement, trouble de la lactation chez les bovins, qui nécessitent souvent, malheureusement, l'éradication complète des élevages touchés, quoi.
On peut appeler ça zoonose, alors.
C'est une zoonose. Alors, il existe un vaccin, mais je crois qu'il est assez coûteux et on le réserve qu'aux zones contaminées, quoi. Hein. Mais il existe un vaccin. La transmission n'est pas toujours... donne pas toujours une nouvelle maladie. L'émergence d'agents pathogènes s'adapte aux nouvelles hôtes, parce qu'il y a une adaptation du virus, de la bactérie qui s'adapte au nouvel individu humain ou animal, quoi. Les émergences ne donnent pas toutes des pandémies, hein. Il y a des fois des infections localisées, hein. Et puis parfois des pandémies, le Covid, hein. Et la propagation dépend de facteurs locaux, des hôtes infectés, des conditions environnementales et des voies d'entrée. La voie respiratoire est particulièrement épidémique. Quand une bactérie, un virus arrive à se transmettre par voie respiratoire, c'est comme la grippe, ça flambe, quoi. La transmission est très facile et souvent grave, quoi. Alors c'est facilité par les voyages, les échanges commerciaux et les achats et de produits et d'animaux exotiques.
Voilà. Est-ce que toutes les preuves sont prises, surtout au niveau des aéroports, des trafic aérien,
normalement,
pour éviter justement...
Oui, il y a des CITES, des certificats internationaux de phytosanitaires, qui disent que les animaux importés doivent être absolument exempts. Et normalement, il y a des examens vétérinaires qui garantissent, à la fois pour les plantes et les animaux importés, voilà, l'absence de contamination, de maladies visibles. Mais ils peuvent être porteurs sains.
Est-ce que ça pose des problèmes de des infections?
Oui, ça peut transmettre des infections. Alors, les infections peuvent...
Et puis des problèmes de désinfection aussi, des matériaux, des vecteurs de voyage, tout ça.
Voilà. Alors, il y a une transmission pas uniquement par le contact animal, mais aussi par l'environnement. Le sol, l'eau, l'alimentation peuvent être contaminés par des animaux. Et secondairement, les sols et les eaux peuvent contaminer les hommes. Ce n'est pas forcément une contamination directe, ce qui rend les choses difficiles. On a vu les vecteurs.
Hein, et puis éventuellement par les végétules aériens ou autres.
Oui, par l'air, par le charbon, par l'air. Par exemple. Alors, il existe actuellement des outils génomiques. On recherche les gènes de ces bactéries ou de ces virus qui existent chez ces animaux qui pourraient nous les transmettre pour programmer, pour voir comment ils vont évoluer et s'ils vont s'adapter à l'espèce humaine. Et pour s'adapter à l'espèce humaine, c'est changement d'espèce, donc, ils passent souvent par des intermédiaires qui est le porc. Le porc est très voisin de l'homme du point de vue génétique.
Bon, même au point de vue cardiaque, c'est vrai.
Oui, c'est peut-être pas un compliment, l'homme et le porc sont très voisins, mais c'est un fait. Quand une bactérie ou un virus passe chez le porc, il n'est pas loin de passer chez l'homme. Voilà. Donc, je ne sais pas si on va reparler des coronavirus, parce que c'est quand même... on en a largement parlé ces temps derniers. De même, la grippe est une zoonose, hein. C'est un virus influenza aviaire.
Il y a une grippe porcine aussi.
Oui, il y a une grippe porcine, on en parlera aussi. Mais la grippe aviaire, il y a deux types de virus, c'est des virus A. Et il y en a des virus qui sont faiblement pathogènes et d'autres qui sont très, très pathogènes. Alors, on les caractérise par des anticorps de surface qui sont des hémagglutinines H. Et le H va de 1 à 16, H1, H2, H5, etc. Et une autre protéine de surface qui est la neuraminidase, qui va de N1 à N9. Donc les virus, par exemple, c'est le H5N5, H1N5, etc. Le H5N1, par exemple, est celui qui a sévi en 2021-2022 et 2022-2023, au cours de ces hivers. Alors c'est important, on en avait déjà parlé, ces virus sont dépistés dans l'hémisphère sud, parce qu'ils apparaissent dans l'hémisphère sud, et la migration des volailles, des oiseaux sauvages, transmettent ces virus dans l'hémisphère nord, aux oiseaux sauvages de l'hémisphère nord, mais aussi aux élevages. Et on a des infections dans les élevages de canards en particulier, des palmipèdes, donc, qui sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus graves et de plus en plus massives, qui nécessitent quasiment tous les ans des abattages massifs de milliers de...
Et cette transmission à l'humain est particulièrement préoccupante,
oui,
parce que...
le H5N1 évolue en H5N6, H5N5 et H5N8, qui sont des virus graves et très préoccupants pour l'espèce humaine. Et on n'est pas... je vous rappelle qu'en 1918-1919, la première cause de mortalité ne fut pas la guerre, mais il y a eu 5 millions de morts en Europe à cause de la grippe.
Fameuse... qui était espagnol, qui en réalité venait d'Amérique.
Oui, oui. Et qui était... l'apparition d'un nouveau virus grippal pour lequel l'homme n'est pas du tout adapté, ni habitué, ni n'a pas d'immunité, donne des pandémies qui peuvent être redoutables, entraîner des millions de morts, et on n'est pas à l'abri du tout.
Et là, les antibiotiques sont impuissants.
Impuissants. D'où l'intérêt de dépister ces virus très tôt et de fabriquer des vaccins pour protéger l'espèce humaine. Et de s'en protéger avec des masques, avec etc. Hein, s'il y avait une nouvelle pandémie comme ça, il faudrait remettre des masques et vacciner tout le monde. Hein, c'est... Donc les mammifères...
On en est justement avec ce type de pandémie. Oui, il y a des...
Il n'y a rien de bien neuf cette année, mais on n'est pas à l'abri du jour au lendemain.
Du jour au lendemain, justement.
Alors il y a des laboratoires de vigilance un peu partout dans le monde qui... identifient ces virus, qui font des milliers de prélèvements chez les volailles, chez les oiseaux sauvages, pour dépister ces virus, isoler les souches, transmettre les souches pour fabriquer des vaccins.
Mais est-ce que les vaccins sont vraiment efficaces ?
Ils sont efficaces à 80-90%, au bout de 3 semaines après la vaccination.
Et surtout, mais par contre, c'est impossible de recruter d'une année sur l'autre.
Voilà. Mais c'est pour ça que c'est quelque chose qui est prospectif, qui doit se faire en continu, tout le temps, pour être toujours, avoir un pas d'avance, d'être sur l'essor d'une éventuelle pandémie. Il faut les trouver avant qu'elle n'explose pour protéger...
Qu'est-ce que tu nous conseilles par rapport à ça, Jean ?
Se vacciner tous les ans. Contre la grippe.
Hein. Vous...
Oui. Je pense que si nos ancêtres qui vivaient en 1918 avaient un vaccin, ils se seraient vaccinés parce qu'il y a eu 5 millions de morts.
Ça fait des dégâts considérables 5 millions de morts dans les populations. Hein.
5 millions de morts
plus,
en Europe.
Plus que la guerre. Plus que la guerre en elle-même. Hein.
Donc je pense qu'il ne faut pas cracher sur les vaccins. Bon, les petites épidémies, quand il n'y a pas de nouveaux virus, ce n'est pas trop grave. Mais s'il survenait de nouveaux virus... C'est impératif d'avoir déjà un petit peu des anticorps contre des virus, je dirais peut-être pas le dernier virus, mais contre des virus frères ou très voisins. Voilà.
On se défendrait. Est-ce qu'on peut être immunisé par rapport aux vaccinations ?
Oui.
Être sûr d'être immunisé, pardon ?
On n'est pas sûr à 100%, mais tu es sûr à 80-90%. Soit c'est 0%.
Tu préconises bien sûr les vaccinations.
Oui.
Bon, on va s'accorder une pause musicale. Merci Lou.
I'm not feeling too good.
C'est repris.
Nous repartons.
C'est repris.
Nous venons parler de la grippe aviaire.
Sur notre magasin de santé, donc, avec Jean.
Dans le même...
Jean. Oui. Et puis donc, on va conclure cette émission.
Non, pas encore.
Il y a encore plein de choses à dire.
Beaucoup de choses à dire, je suis trop bavard.
Justement, il faut favoriser... Oui. La prévention par rapport
à
toutes ces maladies.
On a parlé de la grippe.
Qui touche notre environnement immédiat, qui cause nos animaux, y compris nos animaux domestiques.
Et notre environnement,
l'eau, les sols. Environnement, et c'était très intéressant d'en parler.
On a parlé de la grippe aviaire, d'origine aviaire. Il y a également une grippe porcine, comme tu en as parlé tout à l'heure. Et cette grippe porcine... Il y a trois virus, H1N1, H3N2 et H1N2, voilà, qui donnent des...
Ils étaient répandus dans nos élevages ?
Oui, mais moyennement grave, c'est pas très grave, ça donne surtout des baisses de rendement, de développement des porcs, mais ça n'est pas trop mortel pour le... Mais par contre, la pandémie de grippe humaine qu'on a eue en 2009...
C'est les tours de cochon, quoi, qu'on va dire.
C'était un virus H1N1 d'origine porcine. Ça donne une pandémie humaine, quoi, en 2009.
Eh oui, je me souviens quand la ministre de la Santé préparait déjà des cercueils. Oui. C'est peut-être un petit peu beaucoup, mais bon.
Une autre maladie, une autre zoonose, c'est la rage. La rage qui est une maladie transmise par les chiens errants dans les pays, sous-développés, et par les renards sous nos latitudes, et par les chauves-souris.
Au nom de quoi on a exterminé les renards ?
Alors, c'est pas bon du tout, parce que le renard est un prédateur qui a un rôle important dans l'écosystème, dans notre écosystème, parce qu'un renard mange des milliers de rats, de souris, de campagnols. Donc, actuellement...
C'est mignon, un renard,
en plus. Et puis, actuellement, pour justement éviter la rage humaine, qui a disparu quasiment en France, il y en a un cas, je crois, par-ci, par-là, il y en a eu un cas dans les 10 dernières années qui est décédé. Mais c'était un cas importé, quelqu'un qui revenait d'un pays, je ne sais plus, le Pakistan ou l'Inde ou quelque chose comme ça. On vaccine les renards par des appâts alimentaires. On leur lance par hélicoptère, où il y a des renards, des appâts faits de viande, avec un vaccin oral, ce qui fait que les renards ne sont plus contaminés.
Voilà. Ou bien par une chasse effrénée aux renards.
Mais ça ne faut pas faire.
Quand même risquer de faire disparaître l'espèce.
Voilà, tout à fait. L'autre animal qui transmet la rage, alors le renard, le chien transmettent par morsure à l'homme. Parce que le virus est présent dans la salive. L'autre animal qui transmet de manière beaucoup plus exceptionnelle la rage, c'est les chauves-souris.
Et oui.
Dans les grottes, des chauves-souris peuvent émettre des virus de la rage qui contaminent les gens par voie respiratoire. Mais c'est beaucoup plus rare. Donc c'est important de dépister, de faire le diagnostic dans des centres de référence. Et c'est important de contrôler l'importation illégale d'animaux. Il se trouve que beaucoup de gens vont dans des pays en voie de développement, trouvent un petit chien mignon, tout adorable, le ramènent en France, et puis il se trouve que ce chien est contaminé par la rage. Ça arrive très souvent. Et c'est quelque chose...
Encore maintenant. Parce qu'il y a quand même des mesures sanitaires pour éviter ça.
Bah oui, mais c'est
des... Et éviter justement le transport d'animaux.
Surtout le transport d'animaux du point de vue illégal.
Qui ne serait pas sain.
Qui peut se traduire par un examen vétérinaire et même un isolement pour savoir pendant quelques semaines si l'animal n'est pas porteur de la rage. La tuberculose bovine, c'est une tuberculose...
C'est pas complètement hérédicré,
non. Mycobacterium bovis, mais qui touche les bovins, les cervidés, les sangliers, les blaireaux et le renard également. Transmission possible à l'homme, ça nécessite une surveillance des animaux sauvages et des bovins. La France était indemne depuis 2001. Indemne, ça veut dire qu'il y a moins de 0,1% des bovins qui sont touchés. Mais ce n'est pas tout à fait...
Ça fait longtemps qu'on vaccine.
Oui, mais ce n'est pas tout à fait éradiqué. Et
donc ça s'est révélé payant de vacciner les bovins.
Oui.
Mais c'est obligatoire pour les exploitations agricoles.
Oui, et c'est transmission par voie respiratoire aux humains. C'est l'agriculteur qui va respirer à côté de ses vaches dans l'étable, qui se contamine et puis qui peut contaminer ses enfants, ses petits-enfants, toute la famille, quoi.
C'est encore le cas aujourd'hui ?
Ça existe encore aujourd'hui, oui. C'est pas la tuberculose dominante, mais c'est un des germes de la tuberculose. Voilà. Alors, je vais vous parler encore de deux, trois infections relativement rares. C'est les fièvres hémorragiques de Crimée-Congo. C'est un virus qui risque d'émerger en France, potentiellement mortel pour l'être humain. Il n'y a pas de cas autochtones, mais un risque d'émergence sur les territoires est réel dans le sud de la France. Il est transmis par une tique yalom, du genre yalom.
C'est pas moustique alors.
C'est un tique. Oui. Mais cette tique est présente en Corse et sur le littoral méditerranéen avec le réchauffement climatique. Et cette tique peut transmettre ce virus par contact direct également avec le sang et les tissus infectés.
Avec le réchauffement climatique.
Oui. Piqûres de tique ou contamination.
On peut se faire des soucis pour l'avenir alors.
La Corse et le Sud, oui, c'est pas exclu. Syndrome grippal, des troubles digestifs, syndrome hémorragique, 5 à 30% de mortalité humaine. Il n'y a pas de cas recensés en France, mais le virus des tiques bovins a été retrouvé dans les Pyrénées-Orientales. Donc des vaches du Pyrénées-Orientales avaient cette tique, qui n'est pas la tique que l'on trouve par ici, mais cette tique yalom, qui est une tique un petit peu variée, porte ce virus dans les Pyrénées-Orientales. Donc on n'est pas, c'est pas exclu qu'il y ait une contamination humaine prochaine ou dans les années qui viennent. D'où l'idée de dépister, de surveiller, d'être extrêmement vigilant, quoi. 10 cas en Espagne, avec un décès depuis 2013. Donc c'est possible. Les mêmes mesures pour se prévenir que des tiques comme les tiques porteuses de borréliose. Il n'y a pas de contamination par les produits laitiers pour la viande. Et c'est surtout les professionnels de l'élevage, les chasseurs, vétérinaires et les gens qui travaillent dans les abattoirs. Autre zoonose, c'est la fièvre Q qui touche les ruminants qui le transmettent à l'être humain. Transmission humaine généralement sans gravité, complications possibles, révélations parfois tardives comme les borrélioses. Il y a des gens qui gardent pendant des mois et des années après l'infection cette bactérie. C'est une bactérie Coxiella burnetii qui donne des avortements chez les ovins, les caprins, infection utérine chez les bovins qui donne des stérilités. 40% symptomatiques chez l'homme, un syndrome grippal, des pneumopathies, état fébrile,
voilà.
Naissance prématurée, avortement chez la femme, endocardie.
Je crois qu'il faudra poursuivre un jour cette émission, parce que là, c'est un dossier qu'il faudra suivre, oui. De toute façon, parce que c'est vrai que, surtout avec le changement climatique et tout ça, de plus en plus d'affections qui risquent de perpétuer.
Et une dernière infection, le charbon.
Le fameux charbon, oui.
Mais qui est...
Qu'on croyait pratiquement disparu.
Alors, il y a quand même des... C'est une maladie qui existe depuis de très nombreuses années. Avec, comme particularité, c'est les spores de la bactérie peuvent rester vivants des dizaines d'années, voire des siècles. Alors, on a parlé au Moyen-Âge de champs maudits, parce que les ruminants se contaminaient dans ces champs. Et ces champs étaient maudits parce que les paysans avaient enterré les animaux morts à faible profondeur, et ces spores pouvaient remonter à l'occasion de sécheresses ou d'inondations et contaminer de nouveaux animaux.
Il y a encore des nouveaux cas aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Transmission humaine cutanée par souillure de plaie, par inhalation de spores, par voie respiratoire ou par ingestion de viande. C'est un agent qui peut être utilisé lors de guerres bactériologiques.
Et oui, hein.
C'est
très... Faut pas l'oublier quand même, on a eu des...
Donc,
il faut y avoir venir des alertes par rapport à ça.
Alors, l'infection chez l'homme...
C'est pas éradiqué, puisque de toute
par
façon...
L'homme se contamine par voie cutanée, avec 5 à 20% de décès, ou par voie gastro-intestinale ou respiratoire, où on a quasiment 100% de décès.
Voilà, je crois que ce dossier, il faudra le poursuivre, donc, parce que c'est particulièrement intéressant. Voilà, mais aujourd'hui, voilà, on arrive au bout de cette émission. Merci.
Il existe une vaccination.
Merci de nous avoir écoutés, parce que... Merci bien sûr à Loud d'avoir assuré la technique. Et puis, à très bientôt sur le 107, hein, pour l'émission Les Paroles est à vous aussi. Et puis, Et puis bien sûr, sur le magazine Santé, mois prochain. À très bientôt sur le 107.